Le texte qui portera notre méditation de ce jour, eh bien, c'est celui que Valentin avait choisi pour aujourd'hui dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 4 à 15. Au cas où quelque chose vous aurait échappé dans la lecture de Valentin, je vais le relire. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, pendant la nuit, l'Éternel apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit : Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon répondit : Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur qui écoute, pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit : Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera plus jamais après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, c'était un rêve. Il revint à Jérusalem et se tint devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Ce n'est pas une phrase que nous entendons ou prononçons souvent. C'est même une phrase qui semblerait suspecte ou même dangereuse. Soit la personne qui parle ainsi est emportée dans une passion sans limite, soit elle est réduite à une soumission d'esclave, soit elle est extrêmement puissante, peut-être un peu mégalomane. Et puis que répondre ? Que peut répondre la personne à qui est dite cette phrase, qui la reçoit pour lui ? Décroche-moi la lune ? N'importe quel caprice ? N'importe quelle ambition ? Certains pourraient dire que ce n'est ni suspect, ni étonnant, ni dangereux que Dieu parle ainsi dans ce récit du livre des Rois, puisqu'il est le Dieu tout-puissant et qui tient parole. Cependant, Dieu est-il là pour nous donner ce que nous voulons ? D'ailleurs, que voulons-nous ? Voici une question que nous pouvons nous poser en lisant ce récit. Sans être Salomon roi en Israël, que voulons-nous ? La question trouve un écho dans la réponse de Salomon qui demande un cœur qui écoute. Et le cœur, chez les Hébreux, représente non pas le siège des émotions, comme aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, mais le cœur, c'est le siège de la volonté, le siège de la décision. C'est donc du cœur de Salomon qu'est sortie cette réponse qui a tant marqué Valentin et beaucoup d'autres. Ce que tu veux, ce n'est pas un caprice. Ce ne sont pas les mille choses qui peuvent passer par la tête parce qu'elles font envie. Ce que tu veux, la volonté, se tient solidement ancré dans les profondeurs de l'être et de la pensée, selon ce que la personne croit, selon ce qui l'oriente, selon ce dans quoi elle respire. Et ce n'est pas une démarche égoïste à laquelle Dieu exhorte Salomon, mais à une véritable réflexion sur ce qui est bon pour lui, sur ce qui va du côté de la vie dans ses circonstances, dans sa situation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une démarche de responsabilité. Et la réponse de Salomon à Dieu est aussi réponse à sa situation de roi dont la charge consiste à gouverner en Israël. Et si nous ne sommes pas rois ni reines, je ne crois pas, si nous ne gouvernons pas de peuple, nous gouvernons au moins un peu notre existence. Et nous avons des responsabilités familiales, professionnelles, sociales, ecclésiales. Et nous pouvons entendre une reprise de cette question, par exemple, dans ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean. « Tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous le donnera. » C'est quoi ce « tout » ? Ou encore ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Mais que demandons-nous ? Et que voulons-nous ? Une autre question est inscrite dans ce que Dieu dit à Salomon et Jésus à ses disciples. Qu'est-ce que Dieu peut donner ? Autrement dit, quelle représentation de Dieu avons-nous ? Quel est le Dieu auquel est adressée notre foi, le Dieu que nous prions ? Car Dieu n'est certes pas réduit à nous donner ce que nous aimerions avoir ou être. Il n'est pas à notre service. Dieu n'est pas un moyen pour parvenir à nos fins, même si elles sont extrêmement respectables. Depuis Jésus de Nazareth, il n'est plus vraiment possible de croire en un Dieu qui intervient directement dans les affaires du monde, dans les phénomènes naturels ou dans les malheurs qui affectent les humains. Même si la foi en ce Dieu interventionniste est prégnante dans bien des livres de la Bible hébraïque, et même si des chrétiens le croient encore, trouvant cette croyance d'un Dieu qui intervient un espoir ou une explication face à ce qu'ils vivent. À ces deux questions essentielles, qu'est-ce que je veux ? En quel Dieu est-ce que je crois ? Nous trouvons quelques éléments de réponse dans ce que dit Salomon. Et vous avez remarqué que sa réponse est longue. Il ne se contente pas de dire « s'il te plaît, je voudrais un cœur qui écoute ». Salomon commence par relire son histoire. Il réfléchit à qui il est, à d'où il vient. Une réflexion posée en relation avec l'Éternel qui a ouvert devant lui la question de la profondeur et de la qualité de sa volonté. Et cette introspection comporte trois étapes. Premièrement, Salomon se souvient que l'Éternel a agi avec une grande bienveillance et une grande fidélité envers David, son père. Bienveillance et fidélité, c'est aussi ce qu'a proclamé Jésus le Christ et ce qu'ont manifesté sa vie, sa mort et sa résurrection. Bienveillance et fidélité pour créer et recréer la vie dans le chaos, pour inspirer aux humains de créer avec lui un monde où chacun ait une place honorable. Bienveillance et fidélité gratuite. Dieu ne demande rien en échange. Bienveillance et fidélité envers chacun, envers chacune. Dans le récit pour Salomon, à qui Dieu ne reproche pas d'avoir pris, juste avant le récit que nous avons lu, d'avoir pris pour femme la fille de Pharaon, la première d'un très très grand nombre d'épouses et de concubines étrangères qui introduiront en Israël d'autres dieux devant lesquels Salomon finira par s'incliner. La bienveillance et la fidélité de l'Éternel ne garantissent pas les nôtres en toutes circonstances, car elles n'enferment personne et ne s'imposent à aucune volonté humaine. Deuxièmement, dans sa réflexion, Salomon se souvient de la manière dont David a vécu et gouverné, en suivant la voie de la loyauté, de la justice, de la droiture du cœur devant l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, disait Jésus de Nazareth. Et les besoins élémentaires, manger, boire, se vêtir, tout cela sera donné en plus. Puisque par la justice et dans la justice, tous peuvent avoir la nourriture et le vêtement et même un toit. Nous savons également que la droiture de cœur de David ne l'a pourtant pas préservé de faire tuer le premier époux de la mère de Salomon, Bathsabée. Mais cette droiture de cœur lui a permis de reconnaître sa faute devant le prophète Nathan. Et selon la tradition biblique, elle lui a inspiré cette droiture de cœur, un des plus beaux psaumes, prière de repentance et de confiance, le psaume 51. Car la droiture du cœur, c'est un cœur qui se tourne et se retourne vers Dieu, c'est-à-dire une volonté capable de revenir après s'être égaré, une volonté qui se souvient de la fidélité divine après l'avoir oubliée. Et Salomon se voit lui-même comme le fruit de la fidélité et de la grande bienveillance de l'Éternel, auquel répondaient la loyauté, la justice et la droiture de cœur de David. La dynamique de relation entre Dieu et l'être humain est fructueuse pour l'avenir et pour l'humanité. Elle engendre des possibles, elle ouvre des portes, elle resserre des liens, elle supporte dans l'adversité. Alors, troisième étape de sa réflexion, Salomon se reconnaît lui-même, humblement, comme un petit jeune homme qui ne sait rien faire. Littéralement, en hébreu, il ne sait ni entrer ni sortir, ce qui signifie qu'il ne sait pas conduire ses armées. Et pour un roi, c'est quand même un handicap. Mais puisque Dieu s'adresse à lui, Salomon se révèle lui-même, à lui-même et à Dieu, dans la nuit, dans le rêve, c'est-à-dire dans l'intimité, dans l'intériorité, comme un petit jeune homme qui ne sait rien. Loin de la magnificence du souverain qui a offert publiquement 1000 holocaustes sur l'autel du haut lieu à Gabaon. Et c'est la grande bienveillance et la fidélité de l'Éternel qui l'y autorise, et elle seule, à se montrer ainsi tel qu'il est. Ce ne sont pas les 1000 sacrifices, mais seulement la bienveillance et la fidélité, parce qu'elle le libère de l'obligation de se comporter à ce moment-là, dans le rêve, dans la prière en roi. C'est dans la même perspective que Jésus de Nazareth recommande à ses disciples de se retirer dans le secret de leur chambre pour prier, afin de ne plus être soumis aux pressions sociales, religieuses ou familiales, celles qui nous sont imposées ou celles que nous nous imposons à nous-mêmes, afin que la prière soit libre pour la reconnaissance des manques, des erreurs, des doutes, des questions, des peurs. Mais ce petit jeune homme qui ne sait rien est aussi roi en Israël. Et Salomon formule alors ce qu'il veut. Compte tenu de ce qu'il vient de dérouler, de sa compréhension de Dieu, de sa relecture de son histoire, des responsabilités qui sont les siennes, Salomon demande un cœur qui écoute, c'est-à-dire une volonté attentive à la volonté de Dieu, pour discerner le bon du mauvais et ainsi gouverner le peuple selon la justice. Salomon veut être éclairé pour accomplir sa tâche. Il demande un cœur ouvert à la lumière divine, un cœur à l'écoute de la parole de Dieu, une volonté qui s'accorde à la bienveillance et à la fidélité de l'Éternel. Et nous savons, cela ne se fait pas une fois pour toutes. C'est une prière de toute une vie, une prière de chaque jour, et quand bien même elle ne garantit pas, mais elle nous aide à vivre. La prière de Salomon nous éclaire sur la prière, sur nos prières. Ce que Salomon demande à Dieu, c'est que soit intensifiée en lui la conscience de la parole créatrice. C'est que sa volonté d'homme et de roi soit mobilisée pour le service du peuple, le service d'autrui. Salomon prie parce qu'il ne veut pas rester ce petit jeune homme qui ne sait rien. Sa prière exprime un désir de devenir, d'être autrement pour remplir sa tâche, pour le bien du peuple. Il ne demande pas à Dieu d'intervenir directement dans les affaires du royaume. C'est à lui, au roi, de décider et d'agir. Nous ne sommes ni roi ni reine, mais ne tâchons-nous pas de nous comporter là où nous sommes, dans ce que nous faisons, de manière responsable. N'avons-nous pas besoin, dans ce que nous sommes, là où nous sommes, de discerner le bon et le mauvais, le bien et le mal, c'est-à-dire... N'avons-nous pas besoin de la capacité à évaluer une situation et à y discerner ce qui favorise la vie des vivants et ce qui leur fait mal? Il n'y a rien de mécanique et d'automatique dans ce discernement, ni dans la reconnaissance de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. À chaque fois, dans chaque situation, il importe de se poser à nouveau la question. Sinon, le monde et l'existence deviendraient juste une série de cases à cocher ou pas, et cela n'est pas vivre. Un cœur qui écoute, c'est la volonté d'une personne qui ne sait pas tout à l'avance, qui réfléchit et qui prie, parce qu'elle n'est pas remplie d'elle-même, de son savoir, de ses croyances, de son pouvoir. Salomon ne se prévaut pas d'être roi. Il sait bien qu'il l'est. Mais dans sa prière, il ne cède pas à l'orgueil de se croire assez fort, assez intelligent, assez bien. Le cœur qui écoute, c'est une volonté attentive à résister à l'orgueil. Une volonté qui ne veut pas se laisser séduire ou envahir par cet orgueil qui sépare de Dieu et d'autrui. « Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, » dit le roi, « parce qu'il ne veut pas oublier qui l'a choisi et d'où il vient. » La prière comporte cette double dimension de lien à Dieu pour s'ouvrir à sa grande bienveillance, à sa fidélité éternelle, à son amour inconditionnel, à son œuvre créatrice, et de lien aux autres, un lien de justice, de reconnaissance, de solidarité. Salomon demande un cœur ouvert, une volonté qui n'oubliera pas de se reposer dans la prière, de se remettre à Dieu qui est puissance de transformation de l'être. Car la prière, ce n'est pas tellement pour porter le souhait que les autres changent, que de porter le désir d'être soi-même transformé. Le théologien John Cobb, cité par le professeur Raphaël Picon dans un ancien article d'Évangile et Liberté, écrit que prier, c'est nous aligner dans la direction vers laquelle Dieu est déjà en train de nous tirer, une direction pointée par le Christ. Finalement, ce que la prière demande à Dieu, c'est Dieu lui-même, créateur de l'humain, qui lui donne la vie vivante. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Et le récit raconte que Dieu donne à Salomon ce qu'il demande, un cœur qui écoute, sage et intelligent. Et selon la théologie qui est celle des auteurs du premier livre des rois, il lui donne encore plus. Tout ce que Salomon n'a pas demandé comme roi en Israël, richesse et gloire. De telle sorte, dit l'Éternel, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais plus personne semblable à Salomon. Et c'est bien ainsi que le roi d'Israël est souvent représenté comme un roi incomparable d'une majesté extrême. Mais en Jésus le Christ, ce n'est ni la richesse ni une gloire royale que Dieu donne, pas plus qu'il donne une longue vie. Mais il donne cette richesse d'être relié à des frères et des sœurs. Il donne cette gloire qui est la gloire d'aimer. Et puis il donne à chacun d'être cette personne unique, précieuse, incomparable, non pas par une supériorité quelconque, mais par une singularité remarquable. Non pas un moi gonflé d'orgueil qui pourrait se retrouver tout d'un coup flétri de peur, mais un soi relié à l'œuvre créatrice, avec une volonté délibérée et reprise au fil du temps d'y prendre part à cette œuvre. Un soi avec un cœur qui écoute. Amen.